Au quotidien, 5e édition.
Bonjour mesdames et messieurs, c'est Yvan Deslauriers qui est en demi-micro. L'autre demi est occupé par Francine.
Ben voilà, Francine Forget qui est encore là ce matin.
Comment encore là?
Vous êtes content, Yvan, que je sois encore là?
Bien sûr, bien sûr.
Ah, bravo, bravo. Mais moi aussi, je suis très heureuse de reprendre le fil de la semaine dernière.
Absolument. Et on a un nouveau compagnon pour cette semaine. Je ne sais pas s'il va nous discipliner autant que Mathieu le fait. Alors, c'est Nicolas Schwartzmann qui est à la console.
Enchanté Yvan, enchanté Francine.
Et on a appris ce matin hors d'onde que Schwartzmann, ça veut dire l'homme en noir.
L'homme noir.
Alors, l'homme noir nous surveille, Francine.
Oui, mais Nicolas a une chevelure très noire.
Oui, dans ce coin-là.
Foncez.
OK, on va s'arrêter ici sur les comparaisons avec Nicolas. On a une grosse émission, comme nos émissions habituelles, et on commence par les faits. La météo, il fait beau.
Beau.
Ben, il était censé pas faire beau.
Oui, mais là, Yvan, c'est beau, alors on va le dire.
Oui, disons-le. Et disons aussi qu'on est le 3 juin. Et moi, j'adore le mois de juin pour des raisons particulièrement personnelles, parce que, évidemment, mon anniversaire est au mois de juin. C'est la fête des pères aussi. Cette année, ça va être la même date, d'ailleurs. Donc là, si les gens qui sont intéressés, ils peuvent chercher pour trouver la date. Là, j'ai donné deux indices importants.
Est-ce qu'il y a un prix, quelque chose, généralement? C'est l'appel 1, l'appel 3, l'appel 5? Non, on ne fait pas ça, nous.
Du tout. Okay. Je ne les invite même pas à mon anniversaire. Mais quand j'étais plus jeune, parce que je considère que je le suis encore un peu, c'était aussi c'était le début des vacances d'été qui commençaient le 24. Alors là, pour moi, le mois de juin, c'est plein de belles choses. Et c'est le mois des fraises aussi. Alors, je nous souhaite un merveilleux mois de juin à tous. Et on commence maintenant, Francine, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine?
Vous vous rappelez la semaine dernière, d'ailleurs je salue Le Devoir qui depuis quelques semaines fait vraiment des grands titres culturels. C'est pas juste des petites boîtes en haut de la page, il y avait un grand titre culturel qui annonçait le retour d'une jeune artiste à Montréal qui s'appelle Chloé Wise. Pour une exposition à l'Arsenal,
oui.
L'Arsenal au 2020 William dans Griffintown. Alors, je me suis rendue à cette exposition, au vernissage, en fait, qui avait lieu le week-end dernier. Et j'ai bien aimé cette exposition. C'est une jeune femme qui est extrêmement talentueuse. Elle est diplômée de Concordia. C'est une Montréalaise. Et comme Le Devoir le disait la semaine dernière, ça faisait 5 ans qu'elle n'avait pas remis les pieds à Montréal. Et elle est multidisciplinaire. Elle fait de la sculpture, du dessin, de l'art vidéo, de la peinture, etc., etc. Et elle nous invite à une exposition très particulière sur, je dirais, le voisinage ordinaire, la communication un peu factice. Et elle le fait à partir de tableaux qui sont très accessibles, qui en fait représentent des visages, mais des visages assez non expressifs et qu'on peut contempler aussi en étant assis dans un banc de conversation, mais en fait qui n'en est pas un parce qu'il nous renvoie toutes sortes de messages assez négatifs par rapport à la communication d'aujourd'hui. Mais c'est un banc qui est dans comme un trou finalement qui a été fait dans l'espace de l'exposition. Ce qui fait que quand on est assis dans ce banc, on a vraiment une perspective encore, je dirais, plus compréhensible par rapport au thème qui est exploité parce qu'on est loin aussi des visages qu'on voit. Alors, c'est intéressant. J'ai un petit bémol ici. C'est que évidemment pour vraiment aimer cette exposition, c'est très difficile. Il n'y a pas vraiment d'accès à ce montage scénique pour des gens qui seraient en fauteuil roulant, par exemple.
Ah, c'est malheureux.
Oui, c'est malheureux à cause, justement, de ce banc qui est, comme je disais, une espèce de trou là, à l'intérieur de la salle d'exposition. Néanmoins, pour ces gens-là, ils peuvent aller voir l'exposition comme telle et aussi, avant d'arriver à cette salle-là, prendre connaissance d'une très belle exposition qui est offerte juste dans la salle avant d'arriver à la salle où Chloé Wise expose. Et ce sont des aquarelles de Serge Murphy qui sont vraiment intéressantes. C'est des petits clins d'œil, c'est lumineux, c'est vraiment très, très beau. Alors, encore une fois, ben, un petit bain artistique cette semaine.
Oui, puis c'est pas la première fois, je pense, que vous allez à cette salle d'exposition-là, depuis qu'on se connaît.
Oui, j'y vais régulièrement et je vous avoue que c'est un lieu magnifique. Pour moi, c'est une des plus belles galeries de Montréal à cause de l'espace qui est occupé. Donc, ce qui permet, tout est possible. D'ailleurs, présentement, c'est le fameux bal de Bridgeton qui est là. Alors, si jamais vous voulez aller vivre l'expérience, n'est-ce pas, de ces personnages.
Ah, peut-être.
Et oui, il reste des billets encore. Je pense que, en tout cas, il en restait quand je suis allée la semaine dernière. Mais moi, je ne suis pas allée à ce bal-là parce qu'il faut se déguiser. Là. Il faut vraiment se mettre dans l'esprit de la Régence.
Oui, à ce point-là.
Oui, okay. c'est un petit peu... Ouais. Faut être prêt. Faut être prêt.
Moi, je suis allé à deux reprises pour des expériences d'immersion, une avec Van Gogh, entre autres.
Oui.
Mais c'est... Non, j'ai beaucoup aimé cet endroit-là.
Infini était là aussi, avec Saint-Jacques dans l'espace.
Avec toute la publicité qu'on leur fait, ils devraient nous inviter pour qu'on fasse l'émission à partir de là.
Ah, c'est possible.
Pour une fois.
Ben, on peut demander. On peut demander, pourquoi pas.
Sûrement.
Et vous, Yvan?
Oui, moi, de mon côté, évidemment, il y a deux choses qui m'attirent beaucoup. Ben non, plusieurs. Je suis plutôt un généraliste dans la vie. Mais la politique m'intéresse. Suivre la politique, ça m'intéresse. Alors, ça va être assez étrange, vous allez voir, parce qu'il y a eu des élections provinciales en Ontario hier et ça ne fait pas les unes des journaux de Montréal.
Pas du tout. On s'attendait, quand on a préparé l'émission, vous et moi, on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de unes là-dessus. Et non.
Alors, moi, je vais vous en parler parce que, ça, évidemment, ça fait la une du droit à Ottawa. Mais c'est une élection assez intéressante. Je ne veux pas voler mes propres scoops, là, mais évidemment, Doug Ford a gagné haut la main. Et je me demande, je regarde tout de suite du côté provincial parce que les élections provinciales au Québec vont avoir lieu le 3 octobre. Et mon Dieu, que M. Legault, il doit avoir un petit sourire ce matin. En regardant la situation, les deux partis, autant en Ontario qu'au Québec, ont vécu des choses semblables, ont eu à gérer leur province un peu de façon semblable. L'opposition de part et d'autre vacille, pour prendre un mot conservateur.
Tu sais. Disons que les pieds sont dans le sable mouvant un peu.
Oui. Alors, je pense que M. Legault doit être assez heureux ce matin en regardant les résultats de l'élection en Ontario hier. On remarque qu'en fin de semaine dernière, plusieurs partis provinciaux ont eu leur assemblée. Ils se préparent. On commence à être en campagne électorale informelle, même si les élections n'ont pas été officiellement déclarées. Donc, ça se prépare. Mais j'ai l'impression, moi, que l'été... Les sujets de l'été tourneront pas nécessairement autour de sujets politiques au niveau du Québec. Ça risque d'être peut-être une élection aussi sans envergure que celle qu'on vient de connaître en Ontario. J'ai cette impression-là. L'autre point qui a attiré mon attention cette semaine, ça se passe en Angleterre présentement, c'est la fête du jubilé de platine de la reine Élisabeth. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui ont eu le même emploi pendant 70 ans?
Vous avez pas de réponse.
Pas de réponse, hein? Vous n'avez pas connu Louis XIV de son vivant, j'imagine. C'est le roi qui a la plus grande longévité. Je ne me souviens pas du temps, là, mais je pense que c'est 73 ans ou quelque chose du genre. On pourra fouiller pendant l'émission pour dire le chiffre exact. Mais 70 ans, donc la reine Élisabeth avait 26 ans quand elle est devenue reine. Elle a maintenant 96 ans. Ça, c'est assez exceptionnel. J'avais pas beaucoup d'attirance pour ce sujet-là avant de voir l'émission The Crown. Alors, c'est pour ça que là, je jette un petit coup d'œil. À l'émission d'aujourd'hui, Francine, vous vous occupez de quoi en particulier?
Mais Marcel Dugas, il va nous ramener quand même en 1930. avec une une de journal.
Okay.
Et on va parler des trois sujets là, qui faisaient la manchette. Je réserve la surprise pour sa chronique. Mm-hmm. Et moi, j'ai plusieurs, évidemment, plusieurs sujets aussi. J'ai aussi trois sujets. Je ne sais pas si on les couvrira du côté techno.
D'accord. Moi, de mon côté, je reçois Serge Hamelin. On va parler de gros électro. Ça va être la période des déménagements au Québec. Alors, c'est un sujet qui va être d'intérêt. Et si on se rend là, des tartinades au chocolat sans huile de palme. Alors, je sais que vous pensez à une tartinade en particulier. On verra si elle est dans la liste. Je reçois aussi Carole Froment, qui est coordonnatrice au développement philanthropique et aux communications du Centre d'intégration à la vie active, CIVA, qui va nous parler, évidemment, des activités qui vont avoir lieu en fin de semaine et la semaine à venir. Et on commence l'émission avec une chanson que vous allez reconnaître. Mais ce n'est pas les chanteurs que vous pensez qui vont chanter.
Les pieds dans le sable blanc, il marchait sur la plage. Les garçons à la peau d'or, les garçons de mon âge, qui ne se doutaient pas que j'entrerais dans leur vie, et que pour moi l'été mettait son cœur en folie, pour mieux me le donner, pour mieux me le garder.
Les pieds dans le sable blanc, elle marchait sur la plage, cueillant au bord de l'eau de jolies coquillages, guidée par l'étoile de mer, elle venait vers mon cœur, et sous le ciel bleu elle m'a donné tant de bonheur que depuis ce temps-là j'ai le goût de chanter. Sur la plage,
oui.
En cueillant au bord de l'eau de jolies coquillages, guidée par l'étoile de mer, elle venait vers mon cœur, et sous le ciel bleu elle m'a donné tant de bonheur que depuis ce temps-là j'ai le goût de chanter.
C'était le sable et le sable et la mer, exactement, chanté par Ingrid Saint-Pierre et les Denis Drolet.
Et les Denis Drolet. Alors, les Denis Drolet ont remplacé Jacques Boulanger, imaginez. Et Ingrid Saint-Pierre, Ginette Renault, quand même, c'est du calibre assez élevé. Mais les Denis Drolet pour Jacques Boulanger, je l'avais trouvé très drôle. Francine, c'est à vous.
Alors maintenant, les une, on va être un peu plus sérieux, mon cher Yvan.
J'espère.
Ce matin, ben, je dirais, je vais commencer par une nouvelle qui est dans la presse plus, mais qui est ailleurs, qu'on ne retrouve pas aux une, mais qui est devenue la une ce matin. C'est Bernard Drainville qui a annoncé, en fait, pas lui-même, mais on a annoncé sur les ondes de 98.5 le fait que Bernard Drainville serait candidat pour la CAQ aux prochaines élections. Et depuis l'annonce, il y a d'autres informations qui se sont ajoutées. Alors, il se présenterait dans Lévis. Ça serait annoncé, pas ce week-end, semble-t-il, mais probablement la semaine prochaine.
Est-ce que Bernard Drainville a déjà été le collègue de François Legault au PQ?
Au PQ, non, je ne crois pas.
Je lance la
je
question
ne crois pas,
au public. Là,
mais on pourra vérifier, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Maintenant, si on continue toujours avec la Presse Plus, il y a vraiment une grande manchette, c'est les 100 jours de guerre en Ukraine. Donc, on dit c'est une offensive éclair qui finalement perdure. Hein, c'est devenu un conflit d'usure. M. Zelensky lui-même dit que présentement, les Russes seraient maîtres du territoire, de 20 % du territoire. Mais on parle beaucoup dans ce reportage de la Presse Plus de gens qui ont dû fuir les bombes, fuir cette guerre atroce, certains réfugiés à Montréal. Et on parle entre autres d'une étudiante qui est présentement à Montréal, mais qui évidemment ne pense qu'à rentrer au bercail, parce que ceux qui ont fui, d'après ce reportage, veulent retourner pour reconstruire le pays. À la une aussi de la Presse Plus, on parle du repêchage. Alors, le Canadien. Que va faire le Canadien? Alors, on dit Shane Wright ou Juraj Slavkovski.
Mm-hmm.
Et voilà. Alors, qui sera l'heureux élu? C'est à voir.
On saura ça, je pense, à la fin du mois de juin, je pense.
Alors, on est en train, en tout cas, de regarder ce qu'il y en
est. Oui, il y a des
rencontres, il y a des rencontres qui se font. Exactement. On verra. Le hockey est tellement important dans les unes ici. Là, parfois, moi, ça me surprend qu'il n'est pas une adepte des
hockey, en tout cas. J'ai aimé votre prononciation, c'était vraiment bien.
Bon, alors on se pratique, mon cher Yvan. Du côté du Devoir maintenant, un accord sur l'école autochtone. Alors oui, il y a eu une entente de principe qui a été qualifiée d'historique entre Ottawa et les Premières Nations. Alors ça ouvre la porte à une hausse substantielle du financement des écoles. Ça va permettre plus d'autonomie aux Autochtones pour gérer leur système d'éducation. Et on dit finalement que la ratification de cette entente, c'est un engagement, en fait, ça fait suite, c'est la concrétisation d'un engagement du gouvernement Trudeau pour décoloniser l'éducation après les traumatismes des pensionnats dont on a beaucoup, beaucoup parlé récemment. Du côté toujours du Devoir, il y a deux nouvelles qui concernent le milieu artistique. La première, c'est à propos du fondateur des studios Melz qui souhaite ouvrir un autre studio pour concurrencer les studios Melz qu'il a créé, Michel Trudel, qui est maintenant la possession du groupe TVA et avec qui, on peut dire qu'il est un chicane. Alors, ce qu'il veut faire, c'est de construire un studio à Laval, un complexe cinématographique d'envergure internationale qui concurrencerait celui qui est établi à Montréal. Enfin, toujours du côté du Devoir, alors il y a une très grande entrevue avec Mme Louise Portal. Je dis Mme Louise Portal parce que le gala de Québec Cinéma va l'honorer ce week-end. Elle recevra le prix Iris Hommage pour l'ensemble de sa riche carrière. Alors, on va parler de cinéma, mais évidemment, elle a fait autre chose. Hein. On sait que c'est aussi une écrivaine. Elle a tourné dans plusieurs films. Rappelons-nous de Cordélia, où elle avait vraiment à peu près de toutes les scènes du déclin de l'Empire américain, les invasions barbares, plus récemment Paul à Québec. Mm-hmm. Elle a tenu divers rôles aussi à la télévision. Alors, c'est vraiment une grande actrice qui va recevoir ce prix hommage. Et encore une fois, je souligne ce travail du Devoir de mettre à la une des nouvelles culturelles sur une base régulière. Du côté maintenant du Journal de Montréal, alors le Journal de Montréal revient sur les carnages, c'est vraiment le terme qu'ils utilisent, les carnages qui se déroulent depuis quelques semaines aux États-Unis, en revenant sur un discours à la nation du président américain Joe Biden hier, qui a dit « le deuxième amendement n'est pas absolu ». Donc, c'est pas vrai qu'on n'a pas des moyens pour limiter les tueries. On a comparé ce plaidoyer-là à celui qu'avait fait Barack Obama à l'époque. Et en fait, c'est un combat qui est très dur et qui n'est loin d'être gagné. Enfin, une dernière une, toujours au Journal de Montréal. Quelqu'un qui est suspecté d'avoir floué des clients, et ces clients-là sont encore des personnes âgées, ce qu'on peut comprendre. Mm-hmm. C'est Jérémy Paquet qui est visé par une demande de saisie avant jugement de la Banque de Montréal, alors qu'il travaillait pour cette banque, il était planificateur financier. Il aurait détourné plus de 180 000 $ et sept clients âgés sont visés. C'était pour assouvir sa passion. Alors, en fait, il y avait un stratagème, là. Il retirait les sommes et après ça, c'était déposé dans des comptes qui étaient dans une autre banque, à la banque Scotia. Alors, voilà pour les unes de cette semaine. C'était...
Et on se tourne vers l'Estrie du côté de Monique Kirouac. Bonjour Monique.
Bonjour Yvan, bonjour Francine.
Bonjour Monique.
Alors, qu'est-ce que vous nous apprenez de votre coin de pays aujourd'hui?
Alors, je vous parle d'entreprises du secteur agricole et agroalimentaire de la municipalité d'Orford qui apparaissent dans une nouvelle carte touristique lancée en ce début de saison estivale. La municipalité d'Orford veut donc mettre en valeur les producteurs locaux avec une carte qui s'intitule « Saveur Orford ». On donne de l'information sur les entreprises comme Canton Brasse, Tournesol Orford, Duc de Montrichard qui vend des produits du canard et bien d'autres. Alors, ça va permettre aux visiteurs de découvrir, bien sûr, les richesses et la diversité du terroir.
Oui, on peut même faire du vélo dans votre coin et aller profiter du terroir en même temps.
Exactement, et je voulais vraiment vous faire plaisir, Yvan, et vous parler de vélo. Alors, il y a quelques nouveautés qui ont été mises de l'avant pour bonifier l'expérience des cyclistes qui fréquentent le réseau cyclable L'Estriade. Mm-hmm. Et tout ça a été annoncé lors du coup d'envoi officiel de la saison de vélo. J'insiste aussi sur le fait qu'on a fait un appel au respect. Parce que, bon, il y a peut-être un manque de respect entre cyclistes, marcheurs et tous les gens qui fréquentent les pistes.
Oui, malheureusement, ça arrive.
Pour assurer une meilleure cohabitation pour tous les usagers du réseau. Il y a un nouveau guide vélo donc qui propose notamment 10 circuits à explorer et différentes options pour prolonger le séjour dans la région, s'initier au cyclotourisme qui a été produit. Il y a une page web aussi qui est dédiée au vélo qui a été mise en ligne sur le site Tourisme Grande Région. Et il y a aussi finalement une carte interactive du réseau cyclable qui est accessible sur l'application Ondago qui a été produite. Alors voilà, sur une note peut-être un petit peu moins réjouissante, les syndicats d'employés de l'Université de Sherbrooke ont choisi la journée du personnel organisée par l'institution mercredi pour exprimer un mécontentement généralisé. Alors, les merci ne sont plus suffisants, et je cite, c'était ce qu'on pouvait lire sur une affiche installée à quelques mètres des festivités. Imaginez, Yvan, qu'en 2020, l'Université de Sherbrooke figurait parmi les 15 meilleurs employeurs au Canada selon le magazine Forbes. Mm-hmm. Eh bien, ce n'est plus le cas. Ils sont passés au 85e rang.
Oh, pourquoi? Quand même!
On ne le sait pas, mais ce que disent les employés, c'est que l'Université de Sherbrooke n'est plus le milieu attractif qu'il a été. Surcharge de travail causée par la pandémie, salaire qui ne suit pas l'inflation. C'est assez unanime.
Oui, puis vous savez que dans le domaine universitaire, de toute façon, à cause de toute la remise en question des termes qu'on peut utiliser, des sujets qu'on peut aborder, ça devient quand même un lieu assez de remise en question important.
Oui, mais il y a quand même beaucoup de travail qui ont été faits par les différentes institutions pour résoudre ce problème. On pourra y revenir un jour si vous voulez.
Oui.
Alors, une autre nouvelle moins réjouissante, les statistiques qui concernent les infections propagées par les tiques en Estrie sont éloquentes. Le nombre de maladies de Lyme, de Lyme a plus que doublé en un an et la région compte pour plus de la moitié des personnes ayant contracté la maladie. En plus, il y a des cas de, d'anaplasmose, une autre maladie transmise par l'acarien parasite, qui sont préoccupants. Bromont est l'épicentre de la maladie de Lyme depuis quelques années déjà. Mais la ville est pionnière dans la recherche sur ce type d'infection. Si jamais vous venez dans les dans la région, vous pouvez vous procurer gratuitement des pinces pour retirer les tiques en vous présentant au bureau d'information touristique de Bromont. Des mesures à prendre, pantalon long, blouse à manches longues ou t-shirt à manches longues, et s'inspecter lorsque l'on revient d'une randonnée pour voir qu'on n'a pas de ce petit intrus sur notre corps. Alors, il faut quand même venir en Estrie.
Bien sûr, bien sûr. Et je vous menace d'aller vous voir, mais ça risque d'arriver bientôt.
Oui, oui, c'est une menace. J'ai bien hâte de voir si vous allez mettre en place cette menace. J'ai pas peur.
On verra bien. Alors, merci Monique pour ce tour d'horizon et on se reparle la semaine prochaine.
D'accord, au plaisir. Bonne émission.
Merci. Du côté du droit, du côté d'Ottawa, évidemment, personne n'a été surpris. Doug Ford a remporté son pari. La victoire conservatrice a aussi fait des dommages chez ses adversaires. La chef néo-démocrate Andrea Horvath et le chef libéral Stephen Del Duca ont rapidement annoncé qu'ils quittent la barre de leur parti. Alors, l'opposition en Ontario est à se reconstruire. Dans la région de la capitale nationale, les électeurs ont fait le choix de la stabilité. Des 10 circonscriptions de la région, les électeurs ont choisi le candidat du même parti que celui élu aux élections de 2018 à 9 reprises. L'unique changement de parti par rapport au résultat de la dernière fois aura été dans Ottawa-West-Nepean. La course a une fois de plus été serrée entre la néo-démocrate Chandra Pasma et le progressiste conservateur Jeremy Roberts. Cette fois-ci, c'est le nouveau Parti démocratique qui l'a emporté. Du côté, puis j'ai une particulière, ça touche et Québec et Ottawa, c'est le village Valcartier et le parc Calypso. Ces deux villages, ces deux endroits, c'est des glissades d'eau de grande envergure. Le complexe récréo-touristique du village vacances Valcartier à Québec et le parc Calypso dans la région d'Ottawa passent aux mains d'entités américaines. La transaction de 179 millions de dollars ne provoquera aucun changement dans les parcs, seulement un rayonnement à l'international. L'entreprise familiale Calypso Valcartier, fondée en 1963 par Adrien Drouin, a été vendue jeudi pour la somme de 179 millions de dollars, comme je l'ai dit. Alors, ça fait le tour des unes pour Montréal et le reste de la province. On se revoit dans quelques instants, Francine et moi, et on parlera avec Serge Hamelin de Gros Électro et avec Marcel Dugas des unes de 1930. À bientôt.
Vous écoutez Au quotidien 5e édition avec Yvan Deslauriers et Francine Forgette.
J'ai toujours su que t'allais revenir, je t'ai attendu. Je pouvais pas partir, mais le prends-moi dans tes bras pendant. Avoir peur, ça sert à rien. Dans tes bras, moi je suis bien. On va tout bâtir à deux, parce qu'ensemble tout ira mieux. Sous le ciel de Montréal, on danse avec les étoiles, nos yeux pris. Thank you. que tu te retournes même pas. Je vais te regarder, la tête haute pleine de fierté. Les tempêtes du passé, à deux on les aura traversées. Comme si c'était hier, moi j'irai au Belvédère. On se retrouvera au Belvédère.
C'était Mégane Lebel, Belvédère.
Et avant de commencer avec Serge Hamelin, je pense qu'on a une nouvelle de notre chroniqueuse, pas notre chroniqueuse, ma co-animatrice a trouvé quelque chose.
Errare humanues. Alors donc, ils ont siégé ensemble. Bernard Drainville est arrivé au PQ en 2007. Il était, il est devenu député.
Oui.
Et à ce moment-là, François Legault était encore là. Il a démissionné en 2009.
Ah ben.
Alors, contrairement à ce que j'ai dit, je me rétracte.
C'est beau, mais c'est un retour des deux amigos. Ben, je sais pas s'ils
sont amigos. Oui, ça, je sais pas, par exemple. L'histoire le dit pas.
Mais deux anciens du PQ s'en vont à la CAQ. Ça, c'est sûr.
Ben, il y en a un qui est pas mal rendu, je trouve.
Il y en a un qui est très rendu, puis l'autre n'est pas encore élu, pantoute. Alors. Et là, Serge Hamelin me fait des signes désespérés. Est-ce qu'on parle de moi, à un moment donné? Votre micro, M. Hamelin.
Merci.
Si vous voulez qu'on vous entende. Alors, M. Hamelin,
oui.
De façon consensuelle autour de la table, on vous a demandé, on peut-tu parler du chocolat?
Absolument, parce que c'est un régal matinal et il y a des gens qui viennent de se lever chez eux.
Oui.
Hein, puis ils se demandent, bon, est-ce que je mange mon Nutella ce matin ou si je ne le mange pas? Paraît-il que, puis on ne sait plus. Ah ben moi, je sais, hein.
Oui, puis il n'y a pas de l'huile de palme dans le Nutella, puis tout.
Alors là, l'huile de palme, ne m'en parlez point. C'est un autre sujet, c'est un sujet sur lequel on peut s'étendre longtemps, un peu comme le Nutella qui s'étend très bien. Alors, la traditionnelle tartinade n'est pas intéressante du point de vue santé. Son goût, c'est une autre histoire. Tout le monde aime le Nutella. Ceux qui ont dégusté à l'aveugle un paquet de tartinades, le Nutella arrive en première position au niveau du goût.
Ah oui?
Oui.
Mais j'aurais aimé qu'on puisse le tester ici, mais...
Moi, je ne crois pas, et c'est ça, ça prend un test maison.
Moi, je me fie à ça ici.
À la revue?
À la revue Protégez-vous, qui sont très sérieux, paraît-il.
Mais pas alors, nous, c'est ça l'histoire.
Alors, le Nutella est composé principalement de sucre et d'huile de palme modifiée, reconnue pour sa haute teneur en acide gras saturé, néfaste pour le cœur. Il contient ainsi deux fois plus de gras saturé que la majorité des tartinades analysées. Mm-hmm. En plus de faire partie des produits les plus sucrés. Et selon la nutritionniste Julie Desgrosiers, le Nutella a cependant l'avantage de renfermer du lait écrémé en poudre, source de protéines, calcium et autres vitamines et minéraux plutôt que des substances laitières modifiées dont on ignore les composantes et qui sont jugées plus transformées. Bref, ceci dit, on a testé des tartinades au chocolat et je vais vous donner le résultat ce matin. Ça coûte... C'est pas donné, hein. Le Nutella revient à 20 sous la portion, tandis qu'ici, c'est 1,27 $ la portion.
Oh là là!
Oui! Alors, on passe de 20 sous à 1,27 $.
Mais vous savez quand même que le litre d'essence ce matin, c'était 2,18 $.
Déjà.
Alors, deux cuillerées de votre dessert.
Alors, le meilleur, là, c'est Allô Simone.
Tu mets ça dans ton auto?
Non, tu mets ça dans le conducteur.
Alors vous vouliez savoir c'était quel...
Oui, allez-y, bon, allez-y.
Alors c'est Allô Simone.
Mais ça, c'est québécois, Serge, Allô Simone.
Allô Simone, oui.
Très bon.
Lieu de fabrication, c'est Montréal, avec une note de 81% pour l'évaluation nutritionnelle. Et c'est ce produit qui offre la plus belle liste d'ingrédients parmi les tartinades évaluées, à savoir des aliments qui se retrouvent facilement à la maison et constitués à 58% de noisettes, selon le fabricant. Et cet ingrédient figure en tête de liste avant le sucre. Oh. Et c'est d'ailleurs le produit le plus riche en protéines et le seul à ne pas contenir d'huile ajoutée, mais aussi le deuxième plus cher. Il y a ça, voyez-vous, docteur. Alors, en première position...
Francine ou moi, là, on en apporte la semaine prochaine.
Et en première position, c'est le choco squash. C'est marqué chocolat noir. Alors lui, là... Il est 52 cents, là. Il est moins cher, lui.
Beaucoup.
Alors, il a une note de 84 %. Cependant, quand arrive le temps de la dégustation, il n'est pas mangeable.
C'est ça. Que... Ben, voyons donc.
Mais là, je ne comprends pas pourquoi ils l'ont coupé. Pourquoi
il est bon au niveau nutritionnel. Hein? Il n'y a même pas de chocolat dedans. Il est à base de graines de citrouille.
De citrouille.
De citrouille, oui. Alors, c'est ça ici. Malheureusement, ce produit n'a pas du tout plu aux dégustateurs. Si la plupart ont apprécié le bon dosage de sucre, ils ont déploré son apparence grasse et son goût de chocolat de mauvaise qualité. À noter que ce produit ne contient pas de noisettes, mais des graines de citrouille. C'est pour dire, hein, qu'est-ce qu'on fait?
Aïe.
Alors donc, il y a Choco Squash en première position, mais malheureusement, au goût, c'est pas bon. Allo Simone, elle l'emporte haut la main.
Oui.
Et il y a l'autre, le Lindt. Le Lindt, lui...
Oh, j'avais hâte que vous prononciez le nom.
Lindt.
Okay, parce que dans ma famille, on dit Lindt.
Ah oui.
C'est vrai qu'il y a plusieurs T, je crois, à la fin.
Il y a L-I-N-D-T.
Alors, c'est
Lindt. Alors, c'est 6 $, lui, le prix pour un 200 grammes. Il revient à 65 cents la portion. Et là, son goût, c'est très bon. Alors, le Lindt, ça va? Il est moins cher, lui. Enfin, moins cher.
Ouais, donc, ça, pour ça, la semaine prochaine, Allo Simone et le Lindt.
Oui, et le Choco Squash, bon, on en repassera. Et puis, bon, ceci dit, le Dora, c'est le pire. Le Dora, c'est les confitures de Dora, là, sont toujours moins chères, mais mon Dieu que c'est sucré. C'est sucré, le Dora, ça n'a pas de bon sens. Maintenant, je vais vous parler des...
Oui, parce qu'on déménage, ben pas nous, mais il y a des gens, oui, qui vont déménager bientôt.
Oui, alors moi, je vais vous parler des cuisinières. Et c'est drôle, hein, parce qu'on appelle une cuisinière, la meilleure, c'est la frigidaire. Comment ça se fait qu'on appelle une cuisinière,
frigidaire?
Eh bien, je l'ai su. Je me posais la question, je l'ai su. C'est Monsieur William, c'est ça? Crapaud-Durand, qui en 1918 avait la firme de marque Frigidaire. Alors, avec General Motors, ils ont fabriqué des électroménagers et ils ont mis le mot frigidaire, et ça l'a contaminé le mot réfrigérateur. C'est un linguiste qui dit ça, c'est beau, hein, la marque frigidaire a contaminé le mot, finalement. Et tout, on a dit frigidaire, et puis là, il y a des cuisinières de marque frigidaire qui vient de 1918 par General Motors. Et c'est un monsieur qui, je ne sais pas quel soir de l'année, a inventé le mot frigidaire. Alors, pour les meilleures cuisinières sur le marché, et on a fait des tests, là, on en a fait. Eh bien, il y a induction et en vitro céramique. On ne parle plus maintenant des
serpentins.
Des serpentins, non, c'est fini ça. Alors, à induction, ben la meilleure à induction, c'est le moins cher et c'est quand même pas donné, hein. Il se classe parmi les meilleurs de sa catégorie. Son four offre une bonne performance et sa surface de cuisson chauffe l'eau très rapidement, en 8 minutes. Ça bat tous les records. Ça.
D'accord. Okay.
Alors donc, c'est la marque Frigidaire Galerie, le GCR. Enfin, je vais vous donner le prix.
Oui,
combien ça coûte, vous pensez?
Ben, c'est quelques milliers de dollars. Si on
c'est 1 000 je pensais. Oui.
1 750 $.
Ah, ben quelques milliers, vous
l'avez. Ben, avec les taxes, là, on est rendu.
Et puis, vous avez l'autre ici qui, lui, est 1 000 $. C'est le Samsung qui a 1 000 $. Ce nouveau modèle est le moins cher des meilleurs choix. Ensuite de ça... Il y a l'autre en vitro-céramique, lui, si vous voulez, c'est 1 250 $. C'est le Frigidaire Galerie aussi. Alors, le Frigidaire revient partout. Voilà, c'est beau.
Donc, on se reparle la semaine prochaine pour d'autres gros électroménagers.
Les réfrigérateurs.
C'est ça, pas les frigidaires.
Mmh.
dans le cadre des déménagements éventuels. Merci beaucoup, Serge Hamelin, de nous avoir enduré les petits tannants autour de
plaisir.
Terre. Puis on apporte peut-être des échantillons de chocolat demain,
la semaine prochaine. Ça serait intéressant.
Mm-hmm.
D'accord.
Aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, j'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Pamplemousse avec John Schrader pour les Champs-Élysées.
Merci, Nicolas. Bonjour, Marcel Dugas.
Bonjour.
Alors, hier, Yvan, j'ai reçu un courriel. C'était la une numérisée d'un journal du 17 novembre 1930.
Oh mon
avec
Dieu!
Avec trois manchettes. Je laisse le soin à Marcel Dugas de nous dire quelles sont ces manchettes et de nous dire vraiment de quoi, qu'est-ce qu'on... Pourquoi c'était si important et pourquoi il faisait la manchette, pourquoi ces sujets faisaient la manchette?
Oui, bien, quand on regarde des journaux avec le recul de quelques décennies, ça ne nous interpelle pas toujours et c'est normal. Très souvent, il y a question de personnes, d'événements qui n'ont pas eu de résonance historique. Mais ça arrive aussi qu'on tombe sur des pages de journaux qui mériteraient de figurer dans une capsule temporelle, tellement les sujets traités ont été des sujets chauds pendant des décennies et nous interpellent encore aujourd'hui. Et cette page-là, le 17 novembre 1930, à laquelle vous venez de faire référence, c'était dans La Patrie, grand quotidien de Montréal à l'époque, et on pouvait lire trois nouvelles côte à côte. 1. Devrait-on doter Montréal d'un métro? 2. Devrait-on canaliser le fleuve Saint-Laurent? Et 3. Devrait-on accorder le droit de vote aux femmes sur la scène provinciale? Donc, c'était trois dossiers de grande importance qui ont été menés à terme. Mais dans les trois cas, il a fallu être patient et patiente. Et si vous voulez bien, on va faire un très bref tour d'horizon de ces trois questions-là. On va voir surtout de quelle manière on en parlait à l'époque. Je commence avec le métro. La manchette se lisait comme suit. Le projet de tramway souterrain sera sous peu mis à l'étude. On parlait de tramway souterrain. À ce moment-là, le terme métro s'est imposé plus tard. En 1930, parler de tramway souterrain, ce n'est pas une idée farfelue. Plusieurs villes en possédaient depuis la fin du 19e siècle. Et ici même, ça faisait presque 3 décennies qu'on parlait d'en construire un. 1904, un conseiller municipal voulait saisir le conseil de ville de l'idée d'un tramway souterrain parce que, je cite, « quelques-unes de nos rues sont très étroites et les lignes de chemin de fer de surface, donc de tramway, dont elles sont encombrées, causent beaucoup d'inconvénients au trafic. » Et l'automobile était à ses tout débuts. À ce moment-là, ce n'est pas l'auto solo qui causait des problèmes de congestion. On considérait la possibilité d'un métro déjà à ce moment-là. 1911, au lendemain d'une tempête de neige où le transport collectif avait été un complet désarroi, la presse dit, de simplement agaçant qu'il était, même lorsqu'il n'y avait pas de tempête de neige, l'encombrement des rues est devenu tout à fait intolérable et la seule solution, c'était un tramway souterrain. On a étudié la question encore dans les années 1920. On parlait d'un coût de construction de 2,5 millions de dollars le mille. On comptait tout en mille à ce moment-là. Donc, lorsqu'on arrive à notre manchette de 1930, où on disait vouloir se pencher sur l'idée d'un métro, ça avait déjà été étudié dans le passé abondamment. D'ailleurs, ce même 17 novembre, le vice-président de la Compagnie des tramways de Montréal a donné une allocution, rappelant que la compagnie avait présenté une proposition de transport souterrain à la ville l'année précédente. On parlait à ce moment-là de 3 lignes qui couvraient la partie centrale de la ville, à peu près 13 kilomètres, à un coût total estimé de 65 millions de dollars, donc augmentation notable par rapport à l'évaluation précédente. Ça contribuait à décourager le conseil municipal, surtout alors que se déclarait la grande crise économique des années 1930. Donc, au moment de notre manchette de journal, ça faisait près de 30 ans qu'on parlait de construire un métro à Montréal et ça a pris un autre 30 ans avant que ça se concrétise dans les années 1960. Deuxième manchette de notre journal.
Si vous me permettez, oui, Marcel, si j'avais pas la une sous les yeux et si je ne vous entendais pas vraiment ou ne vous écoutais pas, j'aurais l'impression d'être, aujourd'hui, j'aurais l'impression d'être de nos jours. Ne serait-ce que des coûts qui ont changé, évidemment, mais on dirait que les débats se ressemblent pas mal.
Tout à fait. Ben là, on parle, ça a toujours été de toute façon un problème, l'expansion du métro. Ceux qui ont un certain âge se rappellent le débat lancinant à propos du métro à Laval. On en a parlé pendant combien de décennies? On l'a annoncé combien de fois? Et d'ailleurs, c'est un peu la même chose pour la deuxième manchette, où là, c'était le Board of Trade, donc la Chambre de commerce anglo-montréalaise, qui convoquait ses membres en Assemblée générale pour étudier un projet de canalisation du fleuve Saint-Laurent. Ça aussi, ça a été annoncé à de nombreuses reprises. On a un réseau hydrographique important dans l'est de l'Amérique du Nord, avec les Grands Lacs, le fleuve, et alors que se développaient les prairies canadiennes à la fin du 19e siècle, on se disait, ce serait formidable si on pouvait, par exemple, amener les céréales jusqu'au lac supérieur, le plus à l'ouest des Grands Lacs, charger ça sur des navires et les exporter directement en Europe. Mais ce n'était pas possible, notamment en raison de la présence d'importants rapides autour de l'île de Montréal. On crée la U.S. Canadian Deep Waterways Commission, commission canado-américaine. Les États-Unis ont aussi un intérêt dans la navigation sur les Grands Lacs qu'ils partagent avec le Canada et le fleuve qui forme une partie de la frontière entre les deux pays. La première réunion de la commission a lieu en 1896 et une des possibilités à l'étude est de se doter d'un réseau de canaux pour aller d'un grand lac à l'autre et pour contourner le verrou que représentent les rapides autour de Montréal. On va de commission en commission au fil des décennies. C'est évidemment un projet très complexe. Il y a énormément de gens et d'intérêts parfois divergents qui sont impliqués. Une des commissions qui a étudié le projet au début des années 1920 avait siégé dans 5 provinces canadiennes et dans 16 États américains pour essayer d'entendre le point de vue du plus grand nombre. Et tout le monde tirait la couverte de son côté. Ça va de soi. Ça a été annoncé, entre guillemets, le projet de voie maritime du Saint-Laurent en 1932. On parlait de 800 millions de dollars à ce moment-là. Mais le traité officialisant le tout a été rejeté par le Sénat américain. Il y a des lobbies puissants comme l'industrie ferroviaire qui s'y sont opposés. Ces lobbies-là se sont opposés aussi à un autre accord entre les deux pays sur cette même question, signé en 1941. Ça a été une tragicomédie que ce projet de voie maritime du Saint-Laurent. Ça a finalement été complété en 1959, 65 ans après qu'on eut commencé à étudier la question. Et le temps file, j'enchaîne avec la troisième manchette de mon journal de 1930. « Appel vigoureux en faveur du suffrage, Mademoiselle Idola Saint-Jean expose la cause du mouvement féministe. » Il y a seulement une poignée de pays qui ont accordé le droit de vote aux femmes avant la Grande Guerre de 1914-18. C'est vraiment à ce moment-là que le processus s'accélère. Au Canada, les femmes non autochtones, et c'est important de le mentionner, qui ont dû attendre à 1960, ont obtenu, entre 1916 et 1922, le droit de vote aux élections fédérales et dans toutes les provinces. Toutes? Non. La province de Québec a résisté à l'envahissement du suffrage féminin au niveau provincial. Des femmes comme Idola Saint-Jean ont dû faire des discours, des causeries à la radio, des représentations auprès des élus sans interruption jusqu'en 1940 pour obtenir le droit de voter. Et j'aurais pu vous citer une panoplie de différents penseurs masculins qui se sont opposés au vote des femmes, mais j'en ai choisi un en particulier pour vous donner une idée de ce à quoi nos suffragettes ont dû faire face. En 1922, Laurent-Olivier David, sénateur, historien, écrivain, s'est fendu d'un long texte dans la presse où il exposait son point de vue sur la question. Je le cite. « Le suffrage, et ça c'était écrit en gras dans le texte, doit être accordé au plus grand nombre de ceux qui sont capables de donner un vote indépendant, intelligent et honnête. » Et comme il s'opposait au vote des femmes, on comprend facilement ce que ça veut dire. Il s'appuie sur les grands penseurs anglais. Il disait que les femmes, essentiellement, ne pouvaient pas voter indépendamment de leur mari, sinon ça serait de la chicane dans les familles. Et donc, il estime, cette fameuse idée-là qui revient souvent, la femme qui annule le vote de l'homme, qu'arrivera-t-il le jour où elle voudra s'émanciper et voter contre le désir et la volonté de son mari? Cette idée-là, c'était terrible. Mais le problème, vraiment, c'est que le vote des femmes, c'était mauvais pour les femmes en elles-mêmes. L'introduction de la femme dans la politique sera funeste à sa moralité, à son prestige, à sa dignité, à son influence morale. Or, la pudeur et la dignité de nos femmes constituent une partie importante de notre honneur national. C'est quand même impressionnant de lire ça. Et bon, j'aurais pu vous lire le texte au complet, mais je termine là-dessus. J'ai choisi de parler de ce monsieur Laurent-Olivier David en particulier parce qu'il est l'arrière-grand-père de Françoise David.
C'est ça, je pensais, moi aussi.
Ex-présidente de la Fédération des femmes du Québec. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que s'ils avaient été contemporains, il y aurait eu des discussions assez orageuses.
Autour de la table familiale, oui, sûrement.
La party
sûrement.
De Noël aurait été pas mal agitée.
Il y aurait eu de la chicane dans la famille, ça c'est certain, à propos du vote des femmes.
Bien, merci beaucoup, Marcel Dugas. On a beaucoup apprécié ce retour sur les unes. Et puis, bien, ça sera le bienvenu, hein, tant que vous voudrez. À la semaine prochaine.
Parfait, à la semaine prochaine.
Francine, une courte par actualité.
Oui, je vais vous faire part d'un texte qui est paru dans la Tribune numérique cette semaine, un texte de Marie-Sol Saint-Onge, et ça s'appelle « Comme une paire de souliers ». Et on parle de Francis Chevalier. En fait, c'est quelqu'un qui a subi, à un moment donné, un accident en quatre roues, et ça a bouleversé sa vie. Il était assez jeune au moment où c'est arrivé. Et là, il aurait pu, je dirais, renoncer à la vie qu'il avait prévue. Mais non, il a dit « je vais continuer autrement », avec une colonne vertébrale sectionnée en plein milieu du dos. Alors évidemment, il s'est retrouvé en fauteuil roulant, mais il voulait continuer parce qu'il aime trop la vie et parce que c'était important pour lui d'être persévérant. Et il a continué, sa vie. Il a acheté une maison mobile. Alors, à ce moment-là, c'était facile pour lui de pouvoir se déplacer. Il a adapté sa vie à tout, en fait. Chez ses parents, il n'y avait pas de problème parce qu'il y avait seulement un petit dénivelé. Pour se trouver un emploi, cependant, ça a été pas mal plus difficile, mais maintenant, il s'est trouvé un emploi. Il travaille avec une entreprise qui s'appelle Transport et Mécanique JD à Charrette. Alors ça, c'est dans le coin de... c'est dans le coin de Saint-Élie-de-Caxton, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça.
Parce que notre Félix National en parle souvent. Il poursuit sa vie. Et c'est un bel... je trouve que c'est un beau portrait de persévérance et... c'est ça. La vie continue et avec un handicap sérieux, mais il a surmonté
cette
épreuve-là.
Surtout quand on est dans la semaine, je pense, des personnes qui vivent avec un handicap.
Exactement. Alors... C'est ce pourquoi je vous rapporte cette histoire. Vous avez volé ma conclusion.
Oh, c'était votre conclusion.
Oh, c'est pas grave. On travaille ensemble, on partage même les conclusions. Alors, dans la prochaine demi-heure, Yvan, qu'est-ce qui nous attend?
Vous allez nous parler de TikTok et des personnes âgées.
Ah oui?
Et je me sens visé tout d'un coup. On va parler de qu'est-ce qui se passe en fin de semaine au Centre d'intégration à la vie active, au CIVA. Et on va parler de ce qui va nous intéresser dans la prochaine fin de semaine et la semaine à venir.
Vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forgette et Yvan Deslauriers.
Je cale un dernier verre et puis je pars pour la gare. Après, je m'accroche à l'aube ou au lampadaire. Regarde l'étoile filante. Non, c'est un satellite, mais ne valent plus rien. Faut partir d'ici. Mais pas besoin d'aller bien loin pour être déçu. Regarde le diamant. On est là au coin de la rue. C'est pas de l'an, c'est de la cop, c'est pas de la mousse. C'est une escorte, cheap stock, flat buck. Je cours de bord en bord, les années passent sur le corps comme les pintes de bière et puis les shots de fort. Yeah. Ça a l'air que c'est pas à soi qu'on va changer le monde. Et tant qu'à être là, colle un autre homme. Ni la terre ni la mer ne fait vivre son âme et tous ses refrains à tout le monde, à personne. Je suis encore le cata d'une langue, d'un pays, d'un taudis, d'un motel, deux étoiles dans le Maine, aux États-Unis. Je cours de bord en bord, les années passent sur le corps comme les peines de bière et puis les shots de fort. Je cours de bord en bord, de bord en bord, pour bien finir par arriver quelque part. Pour la guerre, après je m'accroche à l'aube ou au lampadaire. Regarde l'étoile filante. Non, c'est un satellite, mais ne valent plus rien. Faut partir d'ici. Je cours de bord en bord, les années passent sur le corps comme les peines de bière et puis les shots de fort. Je cours de bord en bord, les années passent sur le corps comme les peines de bière et puis les shots de fort. Je cours de bord.
De Vincent Vallière, de bord en bord.
Et Francine, vous avez mis votre chapeau de chroniqueuse. Parlant de chapeau, je regarde une photo de ce qui se passe à Londres présentement. C'est la messe du jubilé. L'industrie du chapeau en Angleterre est florissante. En passant, je vous dis ça.
Mais je pense qu'elle l'a toujours été.
Ah oui, mais je regarde ça, là. Il n'y a pas une dame qui n'a pas son chapeau. C'est vraiment captivant. Donc... TikTok et les personnes âgées, qu'est-ce que je vais devoir apprendre?
Mais en fait, vous faites bien de vous inclure dans ce groupe parce qu'on parle ici des 60 ans et plus.
Je suis plus rendu dans les 65 et plus.
Oui, mais quand même, je vous dis, moi, je ne voulais pas que vous dévoiliez votre vénérable âge en ongles. Je voulais simplement vous dire que vous étiez vraiment dans le droit chemin quand vous parliez
le droit chemin
vers... des vieux à 60 ans, parce que c'est le cas dans cet article. Ceci dit, c'est un article qui a été relayé par Bruno Guglielminetti cette semaine sur son infolettre. C'est un article qui vient de PresseCitron.net par Jean-Yves Alric. TikTok séduit de plus en plus les personnes âgées et on se demande pourquoi. Mais en fait, il y a un nouveau type d'influenceur âgé.
Ah oui?
Qui s'installe sur les médias sociaux. Et semble-t-il que TikTok, c'est une plateforme qui est bien aimée des personnes âgées. Il faut dire que cette plateforme TikTok, on sait, c'est celle qui a probablement connu la plus grande croissance des dernières années. Juste pour le premier trimestre, là, le réseau social a accumulé pas moins de 175 millions de téléchargements, hein, des nouveaux téléchargements sur iOS et Android. TikTok séduit au départ des jeunes utilisateurs, mais les gens âgés ont fait leur apparition sur ce service de partage de vidéos parce que on veut montrer que finalement, on peut être âgé et on peut faire quand même des choses intéressantes.
Quand même!
Alors, c'est la revue de gérontologistes qui a publié les résultats de cette recherche. Et dans l'article qui a été relayé par Bruno Guglielminetti, on a fait une rencontre avec un des chercheurs qui s'appelle Ruben Nguyen et qui dit que les gens de notre âge et un peu plus sont devenus vraiment des créateurs de contenu qui sont suivis pas seulement par des personnes âgées, mais aussi par des plus jeunes. Alors, l'échantillonnage, comment ils ont fait ça? Ils ont regardé 1382 vidéos, alors c'est vraiment précis, postées par des gens de 60 ans ou plus. Et finalement, ce qui ressort, c'est que ces vidéos-là sont généralement sur un ton humoristique et ça sert à montrer finalement pas toujours des choses... J'ai trouvé que c'était un petit peu ratoureux, peut-être un peu trop. Ce qu'on décrit ici, c'est que, par exemple, une dame de 86 ans qui montre qu'elle est capable de prendre encore un coup solide, même si elle a un poids plume puis qu'elle a 86 ans, ou encore un autre qui dit qu'elle est capable de twerker. Ben ça, c'est le fun parce que, évidemment, ce n'est pas des danses faciles à pratiquer. Ouais. Puis elle montre qu'elle est capable de le faire. Mm-hmm. Et ces vidéos-là sont visionnées pas mal. Les 1382, là, ben, visionné par 3 milliards et demi de fois. Alors, c'est ce qui fait dire que, en fin de compte, il y a des personnes de moins en moins jeunes qui sont en train d'investir dans TikTok.
Oui, puis les personnes de moins en moins jeunes, justement, c'est quand même des gens qui peuvent acheter beaucoup de choses. Ils ont des moyens financiers qui sont pas mal. Alors, je peux comprendre l'intérêt pour ces choses-là.
Alors, je vais maintenant vers un réseau social qui s'appelle Youbo, dont on a beaucoup parlé récemment, pas pour les bonnes raisons, mais je pense que c'est intéressant qu'on en parle. Le tireur du Texas, rappelons-nous de la tragédie de l'école primaire qui a fait 21 décès, dont 19 enfants. Donc, le tireur d'Uvalde était sur cette plateforme-là. Il y a plusieurs médias qui en ont parlé. Je m'appuie sur un article qui est paru sur le site de Radio-Canada pour vous en parler un peu. Alors, c'est une plateforme qui est moins connue, mais elle connaît un certain succès sur l'App Store et le Google Play Store. Et évidemment, depuis cette tragédie-là, ben, le nombre de chargements, de téléchargements a augmenté. Même si elle n'est pas aussi connue, disons qu'il y a quand même un public de jeunes qui s'y intéresse pas mal. Cette plateforme-là, elle s'appelait Yellow au départ quand elle a été créée en 2015. Et évidemment, avec un nom comme ça, vous vous imaginez qu'elle a été créée par des étudiants français en ingénierie. oui, ben il y a un petit peu d'ironie dans ce que je dis, mais généralement, tous les sites français, quand on regarde leur nom, c'est quand même assez particulier.
J'avais pas saisi l'ironie au premier abord.
Alors, c'est une espèce de plateforme de rencontre Tinder où c'est pas pour se matcher, comme on dit en bon français, mais c'est pour finalement faire des groupes de discussion avec des personnes qui ont des intérêts communs. Donc, on peut aller discuter en direct dans des groupes qui sont généralement d'une dizaine de personnes. Et pourquoi on en a parlé, c'est que en fait, il y a des jeunes femmes, entre autres, mais sûrement qu'il y a eu d'autres personnes qui ont été interrogées par des grands médias américains comme le New York Times et le Washington, des jeunes femmes qui ont avoué qu'elles avaient été en contact avec le tireur et qu'elles savaient que Salvador Ramos, le nom du tireur, avait des intentions, mais en fait, elles ne les ont pas crues. Mm-hmm. Il y en a une, entre autres, qui dit, ben oui, il y avait des plans de fusillade, il avait montré ses armes et tout ça, mais elle n'a pas pris ça au sérieux. Et elle dit que ça faisait un bout de temps, une autre adolescente de 16 ans, qui montrait des affaires un peu bizarres, comme des chats morts. Il faisait des messages de viol aux filles, etc., etc. Donc, il y avait un côté, je dirais, assez noir,
morbide,
n'est-ce pas?
Oui,
c'est ça. Et donc, comme je vous disais, cette plateforme a connu un certain succès parce que, à cause de ce qui est arrivé, c'est très malheureux, il y a 10 % d'utilisateurs qui seraient qui proviendraient du Canada.
Et en troisième lieu, mon Dieu, on parle déjà de la 6G.
Bien, vous savez qu'on ne veut pas s'en laisser imposer dans le domaine des technos. Alors, c'est Nokia qui a annoncé l'arrivée de la 6G sur le marché d'ici 2030. Donc, on se calme, mais c'est intéressant de voir qu'on en est déjà là-dessus. Alors que la 5G, comme on en a parlé la semaine dernière et à quelques reprises, est loin d'être implantée.
Oui, tout à fait.
Voilà,
oui.
Voilà. Cependant, on en parle parce que, premièrement, c'est Nokia qui l'a annoncé, mais Samsung est là-dessus, Ericsson aussi est là-dessus, et aussi parce que il y a eu une conférence où le PDG de Nokia, Pekka Lundmark, en a parlé et a dit ça va faire son entrée sur les marchés dès 2030. Et l'autre chose qu'il a dite, c'est que probablement, ça ne sera pas connecté à des smartphones.
Oh,
donc,
non.
Pas à des téléphones intelligents. Et là, on va revenir à Elon Musk, qui parle depuis longtemps qu'on va nous implanter, n'est-ce pas? On aura des implants dans notre corps pour être connectés donc directement à notre corps. Donc, on dit, alors ce monsieur, ce PDG de Nokia dit que oui, ça fait plein de sens, en fait, c'est pas très bien dit en français, mais oui, il dit c'est très plausible et même je pense que ce sera cela. Donc, nous serons branchés nous-mêmes, ça va être le cas de le dire.
Bon, mettons qu'on va avoir encore quelques chroniques ensemble pour parler du sujet.
Ben, 2030.
J'ai des grandes... Oui, mais...
Ouais, votre contrat, il expire quand, là?
Moi, je viens de Ville-d'Anjou, puis vous savez, le métro n'est pas encore arrivé, alors des échéances comme ça.
Moi, mais en technologie, on les respecte davantage que dans d'autres domaines.
Alors, on va parler avec Mme Carole Froment, qui est coordonnatrice au développement philanthropique et aux communications du Centre d'intégration à la vie active, le CIVA. Et le CIVA, sa mission, c'est d'étudier, de parrainer, de promouvoir et de développer des programmes afin d'aider des personnes vivant avec un handicap physique à s'intégrer et à participer activement à la vie de leur communauté. Bonjour, Mme Froment.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, merci, et vous?
Très, très bien aussi. Alors, on va avoir une belle fin de semaine et aussi une semaine pas pire qui s'en vient. Qu'est-ce qui se passe dans votre organisation en termes d'activité?
Oui, c'est ça. Donc, comme vous l'avez dit, le CIVA offre des services de loisirs sportifs, culturels, de plein air et de soutien à l'intégration donc aux personnes en situation de handicap physique. Puis là, on est très heureux puisque hier a démarré notre programmation estivale qui est généralement très, très attendue. On a démarré hier avec une journée découverte, donc de plusieurs matériels, du vélo adapté, du tricycle, de la jouellette. Et puis, on va poursuivre tout le mois de juin avec notamment une initiation à la randonnée fauteuil tout-terrain et à la jouellette le 14 juin.
Qu'est-ce que c'est la jouellette?
C'est un fauteuil tout-terrain monoroue qui permet de la pratique de randonnée et de course aux personnes qui ont des capacités motrices plus limitées. Et c'est un fauteuil qui est supervisé par deux accompagnateurs, donc un devant qui tire, puis un derrière qui pousse. Et ça permet vraiment d'aller sur des terrains plus compliqués, on va dire.
Je comprends. Donc, il n'y a pas juste la personne qui est dans le siège qui fait de l'exercice.
Non, il y a ceux à l'avant et à l'arrière qui aident aussi.
Mmh.
C'est ça. Puis, on va enchaîner avec quelque chose d'un peu plus festif. On va avoir un beach party, donc le 16 juin, qui est un rendez-vous qu'on propose annuellement. C'est festif, on se retrouve, on joue, on danse, on mange des hot dogs sur le barbecue. Puis, on va assister aussi, fin juin, le 23, au match d'ouverture de la saison des Alouettes.
Oh!
Donc, ça, c'est très attendu aussi par nos sportifs en général.
Oui, et j'en suis.
Oui.
Mais je veux juste revenir, Madame Froment, à votre beach party, ça va être à quel endroit?
Ça va être dans le sud-ouest, tout proche des locaux du CIVA. C'est au parc de Lancan. Donc, c'est ça.
Excellent. Et pour ce qui est du match des Alouettes, est-ce qu'il faut que les gens s'inscrivent auprès de vous? Comment ça fonctionne?
Oui, toutes les inscriptions pour la programmation qu'on propose estivale ou même à l'année se font via notre site internet siva.qc.ca. Il y a un onglet programmation qui est très visible. Puis par cette page-là, vous pouvez vous inscrire à toutes les activités qu'on donne à l'année, que ce soit ponctuel ou régulier, y compris le match des Alouettes.
Y compris le match des Alouettes. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel endroit vous êtes situé dans le stade, étant donné que j'imagine qu'il y a plusieurs chaises roulantes impliquées?
Je vous avoue que j'ai pas l'information. C'est mes collègues à l'équipe de sport qui supervisent vraiment cette activité.
Mm-hmm.
Nous, aux communications, on reçoit les inscriptions puis on leur transfère, mais j'ai pas l'information.
Alors, est-ce qu'il y a des limites au nombre de personnes que vous pouvez amener?
Une trentaine, je pense.
Une trentaine, donc.
Oui.
OK. Donc, je pense que toutes ces informations-là, les gens peuvent les avoir sur votre site au siva.qc.ca.
Exactement, ou en nous contactant directement. On est là toute la semaine, puis on répond aux questions, aux besoins.
Fantastique. Alors, Madame Froment, vous êtes maintenant une collaboratrice à qui on va reparler dans un mois.
Oui, et j'en suis ravie.
Ou à peu près, parce que nous, on est en congé, on l'annonce, là, on est en congé le 24 juin et le 1er juillet. Mais on va se reparler dans le courant du mois de juillet, et vous pourrez nous dire comment vont vos activités à ce moment-là.
C'est parfait. Vous ne serez pas déçus. On a une belle programmation qui s'en vient.
Oh, j'en suis sûr que je ne serai pas déçu. D'après les contacts que j'ai eus avec vous, là, j'avais aucune inquiétude. Alors, on parlait des activités du Centre d'intégration à la vie active, le CIVA. N'hésitez pas à aller sur leur site. Vous avez vu, il y a une panoplie d'activités les plus diverses les unes des autres. Alors, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Mme Froment. Puis
merci
au plaisir de se reparler bientôt.
Très bonne journée.
Au revoir.
Au revoir. Aimes-tu la vie? Aimes-tu la vie? Aimes-tu la vie? Aimes-tu la vie?
Cherchant l'amour, j'aime la musique et les chansons magiques. J'aime le soleil et l'amour éternel.
J'aime le matin quand elle au moins elle se réveille.
J'aime bien la nuit dans le nid du paradis.
Dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce qu'il te faut?
J'aime les années. la vie.
Alors, vous avez sûrement reconnu la chanson « Aimes-tu la vie comme moi ?» mais c'est une chanson qui a été refaite. Il y a Diane Tell, Véronique Dicker, Fouki, Corneille, France d'Amour, Bruno Pelletier, deux frères, Luce Dufault, Émilie Bilodeau, Guylaine Tanguay et Kim Richardson que vous avez entendu. La raison, c'est que ça lance la semaine du Grand Défi Pierre Lavoie. Et à l'intérieur du Grand Défi Pierre Lavoie, il y a une activité qui s'appelle « Aimes-tu la vie comme nous? » Et là, on s'inscrit sur le site et on participe à atteindre l'objectif qui est de 1 million de kilomètres à pied, à vélo, en raquette. En raquette, là, c'est un peu exagéré. Mais en bateau, en kayak, autrement, entre le 9 et le 12 juin. Alors, je vous invite tous, peu importe vos capacités, à vous inscrire et à mettre la distance que vous avez parcourue pour qu'on dépasse le 1 million de kilomètres. Francine, qu'est-ce que vous regardez en fin de semaine?
En fait, je vais enchaîner avec ce que vous venez de dire, puisque moi, je vous propose une promenade. Je vous propose une promenade le long du canal Lachine. Vous pouvez donc marcher, parce que en fin de semaine, il faut savoir que c'est Montréal, c'est la fin de semaine
oui.
Vélo.
Oui.
Alors, ça se peut que les déplacements en voiture, ça ne soit pas une bonne affaire. Alors, pourquoi pas marcher, d'autant plus qu'on annonce du beau temps. Alors donc, le long du canal Lachine, vous pouvez très bien partir de l'extrémité du Vieux-Port et suivre le canal Lachine pour arriver au marché Atwater, ce qui est très intéressant.
Tout à fait.
Ce qui va vous prendre à peu près une heure quinze, et donc vous allez faire un peu de kilomètres et peut-être qu'on peut s'inscrire au défi Pierre Lavoie. Pourquoi pas?
Tout à fait, hein? oui, c'est
ça. Ou s'il y en a qui veulent en faire davantage, il y en a toujours des un peu zélés, vous pouvez vous rendre jusqu'au sud-ouest de l'île, jusqu'au bout, en fait, jusqu'à la Chine. Et à ce moment-là, par exemple, c'est un bon 3 heures et plus de marche. Si vous arrêtez au marché Atwater, et là, c'est un peu l'objectif de mon affaire, c'est de vous amener à aller déguster la cuisine malaisienne des Satay Brothers. C'est en plein air. Il y a des tables de pique-nique qui sont installées dans le marché Atwater. Et vous allez, vous allez goûter à cette cuisine singapourienne qui est vraiment, mais vraiment délicieuse, qui n'est pas compliquée, qui est à base souvent de produits que nous, on mange moins, comme par exemple des salades de papaye, c'en est un bon exemple. Alors, je vous invite à aller là. C'est des jeunes qui ont parti ce resto-là, parce qu'en fait, c'est un resto plein air qui, devant le succès, ils en ont fait un vrai resto un peu plus loin sur Notre-Dame-Ouest. Mais moi, je vous invite à aller au marché. Ça fait 7 ans qu'ils sont là. Et aller manger les satays, les petites brochettes de viande
oui,
marinée,
oui.
Ou encore les pains vapeurs sont vraiment exquis. C'est un des meilleurs restaurants du genre à Montréal. La salade papaye et n'oubliez pas la fameuse limonade. Facile à reconnaître, leur kiosque, il y a généralement une longue queue pour arriver à la commande.
Si la queue est trop longue, vous allez marcher autour du canal de la Chine, puis vous revenez quand il y a un petit peu moins de monde,
mais je vous avoue que c'est assez achalandé pendant toute la période. Alors voilà ce que j'avais à vous proposer en ce week-end de juin, et comme vous dites, c'est tellement beau en juin,
oui.
Il ne fait pas trop chaud encore pour marcher.
Puis moi, je vous relance, vous m'avez relancé avec l'activité physique, moi, je vous relance avec la bouffe, parce que ce soir, c'est le début des premiers vendredis du mois. Les premiers vendredis sur l'esplanade du Stade olympique, il y a des food trucks qui sont là à tous les premiers vendredis du mois. Je suis déjà allé une fois. C'est extraordinaire. Vous n'avez pas besoin de vous poser la question « qu'est-ce qu'on mange ce soir? » Vous avez une variété, mais ce n'est pas juste bêtement des hot dogs et des frites. C'est tellement d'autres choses. Alors, je vous invite à y aller. Ça commence ce soir. Ensuite, oui, on en a parlé, Francine en a fait mention, tour de nuit ce soir aussi, et tour de l'île dimanche.
Dimanche, oui.
Alors, regardez dans vos journaux pour savoir où vous pouvez vous déplacer en voiture ou non, parce que ça peut être un problème.
C'est très concentré cette année, Yvan, si vous me permettez, dans Vieux-Montréal, Griffintown et tout ça. En tout cas, moi, je suis prise en otage là, pour le week-end, puisque à cela s'ajoute un tournage majeur de Chloé Robichaud, son prochain film. Alors, ça en même temps. Oui, monsieur.
Puis alors, vous avez attendu à la toute fin de l'émission pour nous dire ça?
Ben, c'était un peu un punch, là.
Oui, je vois ça. Et puis moi, je vais vous relancer. Alors, vous parlez de cinéma. Je vous amène dans l'Outaouais. Ça a commencé mercredi, le 2. Du 2 au 10 juin, c'est le Festival du film de l'Outaouais qui a lieu à Gatineau. Alors, pour les cinéphiles, bon, il fait vraiment beau et pas très chaud. Alors, je vous encourage à aller dehors. Mais une fois que vous êtes allé dehors, que vous êtes allé manger du saté ou autre chose, vous pouvez vous rendre jusqu'à Gatineau et aller voir un film ou deux films. Et bon, c'est vrai que je viens de cette région-là, là, j'y ai vécu quelques années, mais c'est une super de belle région. Alors, tiens, amenez votre vélo, il y a plein de beaux endroits là-bas et vous allez au cinéma. Donc, on couvre toutes ces choses-là.
Et on rajoute le kilométrage toujours pour Pierre Lavoie.
Oui, puis on rajoute le kilométrage, vous avez tout à fait raison. Moi, en fin de semaine, je m'en vais à Trois-Rivières demain pour voir Harmonium Symphonique à l'amphithéâtre Cogeco. C'est la dernière représentation de ce spectacle-là. Mais j'ai lu et j'ai regardé ce matin, il y a des places disponibles parce qu'on a ouvert des places.
Un parterre, en fait.
Oui, dans le gazon. Alors, vous pouvez acheter un billet, y aller. Espérez pas coucher à Trois-Rivières. J'ai essayé moi-même et c'est presque impossible. Donc, vous pouvez y aller puis revenir à Montréal ou quelque chose du genre, ou avoir votre tente, je ne sais pas. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est la finale de Roland-Garros en fin de semaine. Alors, peut-être que Rafael Nadal va gagner encore. Ça serait son 14e.
On espère. Alors, merci beaucoup, Yvan, pour toutes ces invitations à passer un bon week-end. Merci à Nicolas Fartman qui nous a accompagnés ce matin. Ça fait bien agréable. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous suivre dans nos élucubrations, nos folies. on vous aime beaucoup, puis on a beaucoup de plaisir, puis on essaie de vous le faire partager. Les passions de Camille vont suivre à midi. Et Yvan, comme à l'habitude,
ben là, je veux
le
dire
mot de la fin.
Oui, je veux dire un petit bonjour. Il y a quelqu'un qui nous a écrit du Maroc pour nous dire qu'il aimait les émissions de Canal M. Alors, à la semaine prochaine.